Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Unique au monde, c'est un enfant qui le dit. Il parle du cadeau exceptionnel qu'il cherche à offrir à l'élu de son cœur. Et le livre qui parle du cadeau unique au monde serait à considérer lui aussi comme Unique au monde de Marie-Sabine Roger aux éditions Thierry Magnier à partir de 6 ans. Imaginez un superbe livre-objet dont les images grand format sont généreusement colorées au pastel où domine le vert dans toutes les nuances savoureuses inspirées par la nature. Des pages découpées, pliées ou avec rabat promettent bien des découvertes poétiques et correspondent harmonieusement au thème de l'histoire. L'illustratrice Lucille Piketty a été formée à l'école Étienne et aux Arts Déco. C'est dire comme elle sait faire palpiter toute la magie de ce cadre qui dépasse la notion de décor. Et préparez-vous maintenant à lire une histoire atypique, à la croisée du rêve éveillé et de la déclaration d'amour. On assiste, semble-t-il, à une fête déguisée, peut-être une fête d'anniversaire, dans les bois. Notre jeune héros, vêtu en arlequin, paraît seul dans cette luxuriante végétation, mais on comprend vite qu'il participe à un jeu de cache-cache, en même temps qu'il s'absorbe dans la recherche du cadeau rêvé. J'ai cherché un cadeau pour toi, cherché toute la journée d'hier. Quelque chose d'original, de très rare, de très beau. Un super cadeau. Pas juste un machin pratique, un rasoir, un fer électrique, une cafetière. Non, une chose unique au monde que personne jamais, jamais n'a possédé avant toi. Déjà, plus que ses amis dissimulés derrière les arbres et sous les rabats découpés, il cherche et fouille en quelque sorte la nature environnante. On le voit même plonger la main dans le ruisseau, sous un champignon ou dans un nid, tout entier tourné vers sa quête du cadeau idéal. Le trouverait-il ici, sous l'aile d'un papillon ou entre les pattes de l'écureuil, ou bien dans le miroir de l'eau, sous le ventre argenté des poissons? En même temps qu'il explore, l'enfant se livre à un monologue surprenant, où il s'adresse à l'aimé. « Tu peux en faire ce que tu veux, le mettre au fond de ta poche pour l'emmener avec toi, ou bien tout contre ta peau pour qu'il te tienne toujours chaud, le cacher sous ton oreiller pour rêver souvent de moi. » Mais il ajoute aussi quelques recommandations, voire interdictions, au sujet de ce cadeau unique. Mais il y a certaines choses que tu n'as pas le droit de faire. Et on comprendra aisément pourquoi, quand on en saura plus sur la nature du cadeau. Et l'envie de le connaître se fera plus pressante quand on apprendra qu'il zonzonnera comme une abeille, qu'il tapera fort comme un tambour. Mais durant tout le temps qu'aura duré cette équipée verte à la saveur onirique, jusqu'à la ronde finale des amis enfin rassemblés, nous aurons partagé ce festin de nature tout en écoutant Arlequin gazouiller son amour, aussi tendrement et sûrement que chantent les oiseaux et clapote le ruisseau.
Enfant de la jungle de Michael Morpurgo, publié chez Gallimard Jeunesse en 2010. Michael Morpurgo ancre très souvent ses histoires dans l'histoire avec un grand H. Le royaume de Kensuke, l'histoire d'Aman et Enfant de la jungle sont des livres d'aventure, d'amitié, dans lesquels les enfants découvriront des sujets historiques et des sujets d'actualité qui secouent notre société. Un fait divers réel est à la base de ce roman. Lors du terrible tsunami de décembre 2004 en Indonésie, les animaux, et en particulier les éléphants, ont senti bien avant les hommes la catastrophe qui arrivait. Un éléphant a ainsi sauvé la vie d'une petite fille anglaise qui se trouvait sur son dos en l'emportant dans sa fuite vers les collines et la jungle. Dans ce roman, Will vient de perdre son père, soldat en Irak. Les grands-parents offrent à l'enfant et à sa maman des vacances pour se changer les idées. Passer les fêtes de Noël dans un lieu tropical, exotique et insolite, loin du chagrin et du gris de l'Angleterre. Un matin, ils partent chacun de leur côté. Sa maman ira à la plage profiter du soleil, tandis que Will découvrira l'île à dos d'éléphant. Tout a l'air paisible, lorsque, pris d'un coup de panique, l'éléphant sur lequel se trouve Will s'élance loin de la mer. Que se passe-t-il ? L'éléphant fonce sur la jungle. Lorsque Will aperçoit l'immense vague qui engloutit tout sur son passage, il comprend qu'Una lui a sauvé la vie, sentant avant les hommes le danger qui planait sur la plage. Seul, perdu en pleine jungle, Will a faim et a soif. Una veille sur l'enfant de la jungle. Même mon aspect avait changé. Il m'arrivait d'apercevoir mon reflet quand j'allais boire ou pêcher dans une rivière. Le garçon qui me rendait mon regard ne ressemblait plus que de très loin à celui qui était monté sur le dos d'Una longtemps auparavant. Depuis un bon bout de temps déjà, j'avais abandonné ma chemise toute déchirée et mise en lambeaux par la jungle. Il ne me restait donc plus que mon short, en loques lui aussi. La plupart des boutons étaient tombés, alors, pour ne pas le perdre, je l'avais attaché du mieux que je pouvais en faisant glisser des morceaux de liane dans les passants de la ceinture. Je devais le remonter sans arrêt, mais ça ne fonctionnait pas trop mal. J'étais dans un drôle d'état. Mes cheveux, qui m'arrivaient presque aux épaules, avaient perdu leur couleur de blé mûr. Décolorés par le soleil, ils étaient devenus presque blancs, mes sourcils aussi. Ma peau était d'un brun noisette à cause du soleil ou de la poussière, des deux à la fois peut-être. Mon aspect correspondait au sentiment que j'avais, celui d'être quelqu'un d'autre. Ce fut cette transformation, je pense, qui adoucit la douleur du deuil en moi et qui arrêta complètement mes larmes. J'étais capable à présent de croire que tout ce qui s'était passé avant le tsunami était arrivé à un autre, à un garçon différent, celui qui avait la peau rosée, celui qui allait tous les jours à l'école avec Tong, Bart et Charlie, qui passait ses vacances dans la ferme du Devon, qui conduisait le tracteur de son grand-père, qui était un supporter de Chelsea et mangeait du pâté en croûte avec des chips avant le match, celui dont les parents étaient morts. C'était un autre garçon, à une autre époque, dans un autre monde. J'étais un enfant sauvage à présent, avec des mains calleuses, avec la plante des pieds aussi dure que du cuir, un enfant de la jungle, et Una était ma seule amie, ma seule famille. Elle était tout ce dont j'avais besoin. Elle était aussi mon professeur, et elle ne m'enseignait les choses qu'en me donnant l'exemple. Grâce à elle, j'apprenais lentement à vivre dans la chaleur, dans l'humidité de la jungle, et même avec les insectes. Comme elle, j'imaginais simplement les meilleurs moyens de m'en accommoder. Je ne pestais plus contre eux, je les redoutais moins, je m'efforçais plutôt de les accepter à la manière d'Una. Ce n'était pas toujours facile, mais j'essayais. J'apprenais d'elle que dans la jungle, toute chose, tout le monde a sa place, et que pour survivre, il faut trouver les façons de coexister. Il faut savoir ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, quel fruit est mangeable, quelle eau est buvable. Mais par-dessus tout, il faut vivre au rythme de la jungle, comme le faisait Una. Ce livre nous fait découvrir un monde merveilleux à travers cette forêt tropicale, cette jungle fantastique pleine de murmures et de vie. Dans cet univers, Will va prendre conscience d'un autre monde. il va devenir tout autre, se confondre avec ce milieu. Il comprend surtout que les animaux respectent la vie, qu'ils sont intelligents. Ici, les règles sont simples. Se nourrir, survivre, coexister, respecter le territoire de l'autre et être prêt, voir venir, entendre venir et plus important que tout, sentir venir. Un matin où je dormais dans un arbre, je fus réveillée par Una qui me touchait l'épaule du bout de sa trompe. Elle était juste en dessous de moi, grognant et se balançant impatiemment d'un côté à l'autre, ce qui signifiait, je le savais, qu'elle voulait partir. Peut-être n'avait-elle plus à manger là où nous nous trouvions, ou avait-elle soif? Quoi qu'il en soit, quand Una voulait s'en aller, je ne discutais pas. Il y avait quelque chose d'urgent dans sa façon de se balancer ce matin-là. Elle voulait manifestement que je me dépêche. Son regard exprimait une certaine méfiance, qui me fit aussitôt penser qu'elle était inquiète, qu'elle sentait peut-être un danger près de nous. Je me laissai tomber de mon nid de feuilles et atterris sur son cou. « Qu'est-ce qui se passe, Una ?» lui demandai-je. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle partit aussitôt et beaucoup plus vite que d'habitude. Elle regardait sans cesse autour d'elle et secouait la tête. Elle ne cherchait pas de nourriture, j'en étais sûre. Elle se mit alors à barrir et je compris qu'il y avait un problème, qu'il y avait vraiment quelque chose qui l'inquiétait. Nous étions observés. Je le sentais. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était près de nous, et de toute façon, dangereux. Je scrutai la forêt à présent, à l'affût du moindre mouvement. Un toucan s'envola, bref et clair de couleur, entre les arbres. Des cris de panique retentissaient dans la jungle. Des paons braillaient, des singes hurlaient, jacassaient. Et loin, au-dessus de nous, dans les arbres, l'orang-outan avançait en écrasant le feuillage. Je l'entendais, mais je n'arrivais pas à le voir. La jungle était agitée, perturbée, crispée, sur le qui-vive. J'avais déjà vu ça une ou deux fois auparavant, une crise soudaine et inexplicable de panique dans la jungle. Mais Una ne s'en était pas préoccupée. Il ne s'était jamais rien passé, c'était de fausses alertes. Cette fois, il se passa vraiment quelque chose, et ce fut très rapide. Je vis une ombre bouger entre les arbres devant nous. L'ombre arriva dans la lumière, étincela en une flamme orange, et devint un tigre. Le tigre sortit silencieusement de la forêt, se dirigea vers la piste, puis il s'arrêta et nous regarda en crachant plusieurs fois dans notre direction, montrant les dents. Una barrit de nouveau et se tourna pour lui faire face, la trompe levée, les oreilles déployées. Alors, soudain, tout fut immobile. L'éléphante et le tigre restèrent sur place, s'observant mutuellement pendant plusieurs minutes, mais sans jamais se regarder directement. Il n'y avait plus de crachement, plus de barrissement. C'était un face-à-face, chacun gardant ses distances. Aucun des deux ne reculait, mais aucun des deux ne menaçait l'autre. Lorsque le tigre commença à décrire un cercle autour de nous, Una ne bougea pas, ne remua pas le moindre muscle. Le tigre était au-dessous de moi à présent, me regardant de ses yeux d'ambre qui ne sillaient pas, magnifique, impressionnant, terrifiant. Je fus parcouru de frissons. J'entendais mon sang battre à mes oreilles. Mes cheveux se hérissaient sur ma nuque. Je n'osais pas respirer. Je restais figé sur le cou d'Una, m'y agrippant de tout mon corps, depuis mes mâchoires jusqu'à mes poings, raidissant tous mes membres, faisant tout ce que je pouvais pour ne pas trahir ma peur. Je sentais le souffle du tigre qui haletait. Je voyais l'éclat rosé de sa langue pendante. Il était assez près pour ça. Il suffirait d'un bond, je le savais, pour que ma faim arrive. Les brusques mouvements de sa queue me montrèrent qu'il pensait très probablement la même chose. Je ne regardais pas dans les yeux. J'avais appris qu'il valait mieux éviter de le faire avec quelque animal que ce soit. En fait, je m'efforçais autant que je le pouvais, tandis que le tigre tournait autour de nous, de ne pas le regarder du tout, au cas où le courage me manquerait soudain complètement. Je ne pensais pas pouvoir rester maître de moi très longtemps. C'est pourquoi je me mis à inventer un jeu imaginaire entre le tigre et moi. Je me persuadais que ce tigre, qui se trouvait à quelques mètres seulement, n'était pas du tout réel, qu'il était virtuel, aussi virtuel que le lion dans le livre « Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique », aussi virtuel que l'ours polaire dans les royaumes du Nord, un lion imaginaire, un ours polaire imaginaire. Le tigre qui me fixait était toujours effrayant, toujours terrifiant, mais c'était maintenant une terreur fictive que j'éprouvais, d'un genre qui m'amusait presque, car je savais que la peur elle-même était le fruit de mon imagination, qu'elle n'était que virtuelle, virtuelle comme le tigre. C'était de la pure autogestion, je le savais. C'était peut-être une ruse ridicule, mais elle fonctionna. Lorsque le tigre se rapprocha dangereusement, Una le lui fit savoir, non pas en barrissant, non pas en le chargeant. Elle se contenta de le faire reculer en tournant brusquement la tête vers lui, en balançant un peu sa trompe et en battant l'air de sa queue. Ce fut suffisant. Le tigre se lécha les moustaches, cracha de nouveau pour montrer son mécontentement, remua la queue et s'éloigna à pas feutrés dans la jungle, l'honneur sauf, tout comme celui d'Una. Celle-là gronda doucement en signe de triomphe, pensais-je. Elle agita les oreilles, puis se remit nonchalamment en marche comme si de rien n'était, levant sa trompe pour arracher les feuilles au-dessus d'elle qu'elle mangea en continuant d'avancer. « Tu sais ce que tu es, Una ?» lui murmurai-je lorsque je retrouvais ma voix. « Tu es l'éléphant le plus génial de toute la planète, voilà ce que tu es. Tu as fait reculer la plus extraordinaire machine à tuer du monde, tu l'as renvoyée d'où elle venait. Et maintenant, tout ce qui t'intéresse, c'est de manger de nouveau. Tu es vraiment quelqu'un, tu sais, tu es vraiment quelqu'un. » Hélas, Will va aussi rencontrer une autre facette de ce monde, gouverné par les hommes. Des hommes détruisant des forêts pour planter des palmiers, tuant pour le plaisir, exploitant des hommes et des enfants en les maintenant dans l'esclavage. Une leçon de vie, d'espoir et de ténacité. Un roman pour dire que de la douleur peut naître la douceur. Parfois, on peut rencontrer des êtres exceptionnels qui soient éléphants, tigres, orang-outans, hommes ou femmes. Ils sont là pour nous guider, nous redonner du courage, nous rappeler l'essentiel, l'amitié, la confiance, le respect, la valeur de la vie. Un livre qui nous rappelle que l'homme est tout aussi animal que l'orang-outan peut être humain, qu'il n'est pas besoin d'être doué du langage pour transmettre ses sentiments. Dans le post-scriptum, on trouve des informations sur les événements réels qui constituent la toile de fond de ce livre et aussi les raisons qui ont poussé l'auteur à écrire ce livre. Un bon gros livre dans lequel on se plonge entièrement pour n'en sortir qu'à la dernière page. Pour les bons lecteurs à partir de 8-9 ans.
Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres, et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast. Bonne écoute et belle découverte!